18h sur Radio G.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Orange Monnaie à partir de 8h10 TU.
RFI.
Bienvenue si vous nous retrouvez sur RFI, les 8h ici à Paris, 6h en temps universel.
Michael Ponge.
Et à la une, pas de tabou, le gouvernement français pose le sujet de l'immigration sur la table. Quelle politique, quel accueil, l'Assemblée nationale en débattra cet après-midi. Pente glissante et malaise dans les rangs de la majorité En Marche. Un deuxième lanceur d'alerte aux États-Unis, l'embarrassante affaire ukrainienne met un peu plus la pression sur Donald Trump. On en parle avec notre invité, le spécialiste Corentin Célin. À suivre aussi, après les élections, les tractations en Tunisie, au Portugal et au Kosovo où l'on votait hier. Dans ces trois pays, les vainqueurs vont devoir s'allier pour gouverner. Nous reviendrons également sur les opposants à la PMA pour toutes hier dans les rues de France. Et puis, la saison des Nobel coup d'envoi ce matin avec la médecine. Attention, terrain glissant, risque d'embrasement imminent. Ils sont nombreux ce matin, les signaux à clignoter sur la route entre l'Élysée et l'Assemblée nationale. Persuadé que l'immigration sera le grand sujet de la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron met les deux pieds dans le plat. Lui qui a invité les parlementaires à regarder le sujet en face, sans tabou. Le président français invite les députés à débattre cet après-midi de la politique migratoire pour que la France, explique le gouvernement, ne soit pas moins accueillante, mais pas forcément plus attractive non plus. Parmi les pistes de réflexion, il y a la question de l'aide médicale d'État. Pour en finir avec ce que certains au gouvernement ont appelé le tourisme médical, Emmanuel Macron veut combattre la fraude et mieux encadrer la distribution de cette AME, Laurence Théo.
En 2018, un peu plus de 300 000 migrants ont bénéficié de l'aide médicale d'État pour un coût de 930 millions d'euros. Là-dessus, les données sont précises. Le gouvernement veut toutefois passer au crible ce dispositif, détecter les cas de fraude pour dégager d'éventuelles pistes d'économie. Pour Nathalie Godard de l'ONG Médecins du Monde, l'absence de données objectives sur l'AME alimente beaucoup de fantasmes.
C'est un dispositif qui est très contrôlé. En revanche, il y a peu de littérature vraiment sur qui sont les personnes bénéficiaires, de quels soins elles bénéficient, quels sont leurs problèmes de santé. Donc ça alimente plein de fantasmes. J'ai l'impression que voilà, ce terme d'abus ou de fraude, il est surtout utilisé pour justifier des restrictions qui sont des signaux lancés, non pas du tout sur des questions de santé, mais sur une volonté d'utiliser l'AME comme un moyen de contrôle de l'immigration, ce qui n'est absolument pas l'objet de ce dispositif.
D'après Médecins du Monde, 90% des personnes qui pourraient bénéficier de l'AME n'y ont pas accès, car les démarches pour l'obtenir sont jugées trop difficiles.
Et d'où une certaine gêne dans les rangs de la majorité, hein, alors que les plaies de la loi Asile Immigration de l'an dernier sont encore vives. Un débat avec en toile de fond les chiffres des demandeurs d'asile. Près de 124 000 personnes en 2018, plus 22% en un an, hein, d'après les données du gouvernement. Afghans, Albanais et Géorgiens en tête. Les Africains, eux, seraient bien moins nombreux qu'à une époque. D'après les derniers chiffres de l'agence européenne Frontex, les flux du continent vers l'Europe ont baissé de 30%. Alors, est-ce à dire que la France attire moins, le jeu en vaut encore la chandelle ou pas? Reportage au Sénégal dans la région de Dakar de William Delesseux.
Quartier de Yumble, une casquette, un t-shirt vert, Mbaye Diom, jeune musicien, a déjà songé au départ.
J'aimerais bien aller en France, découvrir d'autres horizons. Mais pas question pour moi de prendre des risques. Je ne passerai pas par la voie illégale. Je ne me vois pas prendre la mer juste pour aller en France. Ça ne vaut pas le coup.
Ahmad Sarr de l'association Académie Banlieue Culture essaye de dissuader les candidats au départ.
C'est possible de réussir en Afrique. Mais il suffit aussi juste d'avoir toutes les armes nécessaires, n'est-ce pas, pour tendre vers cette réussite-là.
Ibrahim Abba, étudiant, a toujours refusé de quitter le Sénégal pour la France, comme pour l'Europe.
Moi, à mon niveau, je ne trouve pas aussi l'importance de partir en Europe. Je suis dans cette optique-là d'investir ici au Sénégal et de partager aussi mon développement avec mes frères et sœurs.
Y a-t-il une désaffection pour la France? Non, ce sont plutôt les obstacles sur la route migratoire qui dissuadent. Florence Kim de l'Organisation internationale pour les migrations.
On sait la dangerosité de la traversée, on sait également
qu'il y a des interceptions de plus en plus fréquentes en Libye. Il y a aussi un mur qui a été édifié par l'Europe. Depuis 3 ans, il y a effectivement une véritable chute des arrivées en Europe.
Seul un Sénégalais migrant sur 3 a choisi l'Europe pour destination en 2018. Le reste des migrations a lieu dans la sous-région. William Delesseau, Dakar, RFI.
Et à Dakar, il est 6h05. 2h05 à Washington, son avocat promet des informations de première main aux États-Unis. Un deuxième lanceur d'alerte sort du bois et se dit prêt à témoigner contre Donald Trump, dont l'affaire ukrainienne à l'origine, vous le savez, de la procédure de destitution. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Spécialiste des États-Unis, merci d'être en ligne avec nous. Un deuxième lanceur d'alerte dont on ne sait pas grand-chose, hein, si ce n'est tout de même qu'il s'agit là encore d'un agent des services de renseignement qui aurait directement assisté au coup de téléphone controversé cet été entre Trump et son homologue ukrainien. Est-ce que cela veut dire que la pression est ce matin un peu plus grande sur le président des États-Unis ?
Oui, absolument. Surtout, cela veut dire que la défense initiale de Donald Trump ne tient plus vraiment. En effet, Donald Trump et ses partisans critiquaient le premier lanceur d'alerte comme n'ayant rien vu, rapportant des oui-dire. Et là, évidemment, avec un témoin direct de ses actions avec l'Ukraine, Trump ne peut plus avoir cette ligne de défense.
Cela donne plus de crédit encore au premier lanceur d'alerte.
Ah oui, ça lui donne un très fort crédit parce qu'il faut bien rappeler que ce second lanceur d'alerte, tout comme le premier, s'engage dans une voie périlleuse. On a vu que Donald Trump était prêt à violer leur anonymat. Il a dit qu'il était à la recherche de l'identité du premier lanceur d'alerte. Ce sont donc des personnes qui prennent vraiment d'énormes risques pour leur carrière, voire même pour leur vie future. Et donc, on peut supposer qu'ils ont vraiment des choses très intéressantes à dire et en tout cas très lourdes à dire éventuellement au Congrès.
Et d'autres pourraient encore justement sortir du bois, comme je le disais, venir ajouter de l'eau à ce moulin-là. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que des accords ont été passés pour leur protection, pour que les langues se délient à ce point-là ?
Alors, leur protection leur est garantie par la loi. Et évidemment, en ce moment, le Congrès, devant lequel ils devront venir témoigner, est en train de prendre des dispositions, la Chambre des représentants, pour que leur anonymat soit conservé, ce qui sera très difficile. Par ailleurs, effectivement, on sait, d'après la première plainte qui a été maintenant publiée du lanceur d'alerte, qu'il avait énormément de sources. Donc, on peut supposer qu'il y aura peut-être d'autres de ces sources qui décideront de témoigner elles aussi de ce qu'elles ont vu et de rejoindre sa plainte.
Et qu'est-ce que tout cela signifie dans la procédure de destitution qui est en cours ?
Alors, dans cette enquête, hein, en vue d'un impeachment qui est en train de mener la Chambre démocrate, cela signifie qu'il y a vraiment des éléments sur une attitude, sur un comportement de Donald Trump envers l'Ukraine qui a amener énormément d'officiers de renseignement à considérer qu'il y a des actes délictueux, voire criminels qui ont été commis. C'est vraiment très lourd. Et donc, ça crédibilise énormément l'enquête en impeachment des démocrates.
Et d'un mot, est-ce que cela peut faire bouger d'un côté ou de l'autre la majorité républicaine qui, on le sent quand même, hein, est gênée, et c'est peu de le dire.
Oui, on a senti effectivement ce week-end que les ralliés, hein, ceux qui ont accepté Donald Trump toujours du bout des lèvres, Romney par exemple, que l'on connaît, ont commencé à critiquer assez sévèrement Donald Trump. Mais entre critiquer sévèrement Donald Trump pour un républicain et soutenir une procédure en impeachment, voire ensuite en destitution au Sénat, il y a vraiment un gouffre. Pour l'instant, on ne peut pas dire quand même qu'il y ait encore de lâchage, mais évidemment, ce second lanceur d'alerte augmente la possibilité que ça puisse se passer.
Corentin Célin, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RFI. Dans une Europe où le dégagisme balaye les partis traditionnels, c'est une performance notable. Au Portugal, le Premier ministre socialiste sortant arrive nettement en tête des législatives d'hier avec une centaine de sièges. Il devrait même en glaner quelques-uns de plus que lors de la précédente élection, mais sans parvenir toutefois à atteindre une majorité absolue. Antonio Costa devra donc mener des négociations pour trouver les soutiens suffisants au Parlement. Mais avec qui ? Eh bien, c'est là toute la question, Marilyn Darcy.
Il existe une seule certitude dans le paysage politique portugais. Les socialistes sont les grands vainqueurs du scrutin législatif de dimanche. Et António Costa, Premier ministre sortant, un vainqueur parmi les vainqueurs. La majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 116 députés, devrait cependant lui échapper. On se dirige donc vers une nouvelle alliance avec un ou plusieurs partis. Toute la question est de savoir si les socialistes reconduiront l'alliance passée avec la gauche radicale et qui leur a permis de gouverner durant 4 ans. Le Parti communiste, qui a perdu des voix à la législative, n'a pas vraiment fait connaître sa position. Quant au Bloc de gauche, qui lui en revanche consolide sa place de troisième parti politique du pays, il s'est montré disposé à négocier un nouvel accord. Le Bloc, tout comme le PCP, est un parti eurosceptique qui a inscrit à nouveau dans son programme la renégociation de la dette publique auprès de Bruxelles. Une exigence qui déplaît à Costa, l'Européen. Les prochains jours s'annoncent riches en tractations de tout genre. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
On votait hier aussi au Kosovo. Après une décennie au pouvoir, les anciens chefs de guerre sont sortis au profit de deux partis d'opposition qui là aussi vont devoir sans doute s'allier pour gouverner. Enfin, pour boucler cette page électorale, on note le peu d'engouement hier dans les urnes en Tunisie. 41% de participation aux législatives entre les deux tours de la présidentielle. Ennahda sort en tête avec une quarantaine de sièges selon les projections. En deuxième position, le parti du candidat de ce second tour à la présidentielle, Nabil Karoui, qui est toujours, je vous le rappelle, emprisonné. Retour dans le passé, il y avait comme un air de déjà-vu hier dans les rues de Paris. Retour 7 ans en arrière où presque un papa, une maman et deux enfants après la bataille du mariage pour tous. Des dizaines de milliers d'opposants à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes ont défilé dans la capitale française. 74 000 selon un comptage indépendant pour les médias, 600 000 selon les organisateurs. Laura Martel y était.
Pour ces manifestants, croyants pour la plupart, l'élargissement de la PMA va à l'encontre de leur conception de la famille et aura des conséquences délétères pour les enfants qui en seront issus. Emmanuel Dacosta en est convaincu.
C'est l'effacement de la parentalité pour les enfants et puis l'effacement de la paternité pour les pères. Il y a un spermatozoïde, un ovule, donc il y a un père et une mère. En tant que parent, je défonce les droits des enfants et je pense qu'un enfant a le droit à avoir deux parents. C'est important pour lui, pour son épanouissement.
Alain, lui, craint que la multiplication des PMA génère un commerce malsain.
J'entendais à la radio un médecin qui voulait cette PMA. Il disait, on a un problème de donneur. Et on a des délais qui sont immenses pour pouvoir faire les PMA, aujourd'hui déjà. Donc demain, il va y avoir un embouteillage énorme, si ça devait se faire. Comment on fait les choix? Alors il disait, il faut rémunérer les donneurs. C'est la marchandisation, non? Vous imaginez une société pour un enfant où il faut que je vais payer pour donner... C'est pas comme ça que je conçois la vie.
Bien que l'amendement élargissant la PMA ait déjà été adopté en première lecture à l'Assemblée, les manifestants se disent prêts à maintenir la pression pour pousser le gouvernement à le retirer.
Un reportage signé Laura Martel. Les militants de l'ONG Extinction Rebellion ont commencé ce lundi à se rassembler en Nouvelle-Zélande et en Australie. Début de 15 jours de désobéissance civile à travers la planète visant à dénoncer l'inaction criminelle des gouvernements face au changement climatique. Des actions de blocage sont prévues à Londres, Paris, Berlin ou New York. Et dans ce sillage, il y a bien sûr la jeune Suédoise Greta Thunberg que ses soutiens aimeraient voir récompensée cette semaine par un Nobel de la paix. Les prestigieux prix seront remis tout au long de cette semaine. La médecine, ce matin, mais aussi dans quelques jours, deux prix de littérature. Oui, celui de l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, n'avait pas été attribué en plein scandale sexuel et financier qui avait alors ébranlé l'institution. Frédéric Faux.
L'Académie a terminé sa réunion et va vous annoncer le prix Nobel.
La semaine Nobel est un moment très attendu en Suède, et encore plus cette année. L'Académie suédoise, au cœur du scandale du Nobel de littérature, a fait peau neuve. 7 de ses 18 membres ont été remplacés. Les femmes ont fait une entrée en force. Et l'Académie, pour la première fois, est assistée d'un comité externe chargé de recommander des auteurs. Mais à la fin, comme pour les Nobel scientifiques, c'est toujours un petit groupe de Suédois qui choisit le lauréat. Un monopole expliqué par l'historien Gustav Kjellstrand.
La Fondation Nobel doit suivre les dernières volontés d'Alfred Nobel, qui précise que ces prix doivent être décernés par ces institutions que sont l'Académie suédoise et notre Académie royale des sciences. Mais cela n'empêche pas que ces prix soient internationaux. Les propositions de nomination sont faites par des scientifiques, des écrivains ou des politiciens dans le monde entier.
Le choix des lauréats cette semaine va donc être scruté avec attention. Pour la paix, la jeune Suédoise Greta Thunberg est souvent citée. Pour la littérature, où vont être annoncés jeudi les Nobel 2018 et 2019, on évoque de grands noms comme l'Albanais Ismaël Kadare ou le Japonais Murakami. Choisir un écrivain reconnu, lu, consensuel, c'est la meilleure des choses que les académiciens peuvent faire pour retrouver leur crédibilité. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Et donc cela commence, je vous le rappelle, par le prix de médecine qui est annoncé ce lundi matin à Stockholm à partir de 9h30. Temps universel, l'information à suivre avec la liste des Nobel sur notre site rfi.fr mais aussi sur notre application mobile RFI Pure Radio. Merci de votre fidélité.